Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Merci d'être là en notre compagnie encore une fois en ce vendredi un peu frisquet, mais bon, le beau temps s'en vient. Ne vous inquiétez pas, on va tout de suite vous présenter les panélistes pour l'émission d'aujourd'hui puisque nous avons du pain sur la planche. Michael Lalancette qui est à Québec. Salut Michael.
Salut.
Guillaume Lefrançois de La Presse. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Et Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Bon les gars, la prolongation. Encore une fois hier, le Canadien qui se retrouve à 0 victoire et 6 défaites depuis le début de l'année en prolongation. Et comment ça se termine? Ça se termine avec Joel Armia et Jeff Petrie qui se rendent dedans. On fait le tour et attention, on tourne autour et on a la rondelle. Et il y a un gars qui tombe, et il y en a un autre qui s'en va, puis il y en a un autre qui s'en va dans la mauvaise direction. Le tir et le but! Comme le Benny Hill Show dans le bon vieux temps.
Ça dédramatise tellement une défaite, hein, d'avoir... dans le fond, n'importe quoi que tu peux dire avec le thème de Benny Hill, ça devient tout d'un coup... La pire nouvelle devient tout d'un coup...
Écoute,
c'est plus charmant.
Ben oui, ben ça. Oui.
Non, mais c'est pas compliqué, les gars. Là. On pourrait passer la toune au complet, je sais pas combien de temps elle dure, là, 2-3 minutes, là, et sortir les pires moments du Canadien à 3 contre 3 cette année, faire un beau vidéo, puis on remplirait les 3 minutes sans problème de joueurs qui tombent à terre, qui s'en vont dans la mauvaise direction, puis des revirements, puis des sorties.
Hier, on s'est fait prendre par la rondelle. C'est ça l'histoire, c'est que tout le monde avait les yeux sur la rondelle, puis on n'a pas regardé ce qui se passait.
Rondelle.
Non, mais ça, c'est quand tu veux, puis des fois, tu veux trop ou tu manques un brin de concentration. Ça fait en sorte que tu vois pas ce qui se passe dans ton environnement. Puis là, ben, on a vu cette séquence de Benny Hill où Armia et Jeff Petrie sont rentrés dedans pour que Pierre-Luc Dubois prenne la rondelle dans l'enclave et donne la victoire donc aux Jets de Winnipeg. Ouais, c'est ouais. Ça qui est arrivé dans... Tu sais, c'est choquant quand même parce que le Canadien va faire une bonne performance à 3 contre 3. Pendant...
C'était mieux,
là. Tu sais, ouais, on a eu des chances de marquer.
Ils ont touché à rondelle.
Exact.
Premièrement,
ce qui est
mieux qu'à Winnipeg.
Et tu t'es pas fait marquer dans les 30-40 premières secondes. Toujours bien ça de fait.
Puis t'as eu quelques bonnes chances de marquer. Exact. Byron et tout ça. Moi, j'ai bien aimé l'ajout de Byron sur le 3 contre 3. Je sais que, bon, dans le cas de Drouin, je pense qu'il était pas à 100% là, en prolongation. Donc, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai bien aimé l'ajout de Byron, sauf que ce matin, Michael, peut-être que tu peux commencer là-dessus, mais il y en a plusieurs qui critiquent Dominique Ducharme parce que Joel Armia a eu 2 shifts dans le 3 contre 3 et un gars comme Brendan Gallagher qui, on va se le dire, là, la réalité, c'est que c'est ton meilleur marqueur depuis 2 ou 3 saisons, ben il touche pas la glace à 3 contre 3 puis certains diront c'est pas le plus rapide, mais en même temps, tu sais qu'il va se donner les 40-45 secondes qu'il va être là, il va tout donner pour essayer de la mettre dedans, là.
Ouais, puis ultimement, tu sais, tu dois envoyer tes meilleurs. Tu dois envoyer les gars qui risquent de faire une différence. Puis, tu sais, on en avait parlé un petit peu lundi par rapport à l'utilisation de certains joueurs, notamment dans les périodes de prolongation. J'avoue que, tu sais, on se pose quand même certaines questions, mais tu sais, notamment, tu parles de Gallagher. C'est un gars qui quand même joue, a eu connu de bons matchs dans les matchs récents, tout ça. Effectivement, ça fait un peu sourciller, mais moi, ce que j'ai retenu, ça a été spectaculaire, c'est une belle prolongation, ça se termine mal, mais c'est quand même encourageant. Puis tu sais, bon, outre le fait que le Canadien recommence à aller chercher des points, même quand ils perdent même quand l'équipe perd des matchs de hockey, le processus, si je peux me permettre l'expression, je déteste parler de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu sais, ça s'améliore à gauche, pas à droite, c'est des petit pas, mais au moins, on sent que l'équipe recommence à avancer.
Oui, non, je suis d'accord avec vous. Tu sais, c'est un peu mieux. Le match, en général, hier... le Canadien a pas mal joué. Il y a eu des revirements. Tu sais, tu regardes l'erreur de Toffoli. Malheureusement, encore une fois, une passe dans l'enclave. On dirait que c'est des affaires, c'est des erreurs.
Non, mais il peut dire merci à Suzuki qui a envoyé une belle patate chaude aussi, par contre, là. Tu sais, il faut voir ça, de cette façon-là.
Ouais, ben, c'est ça. Parce que sur le jeu, Suzuki aurait pu aussi continuer. Tu sais, il était placé pour protéger la rondelle. Il aurait pu continuer vers par la bande. Mais c'est ça. Il a pas fait la plus belle des passes à Toffoli. Puis, ben, Toffoli, ensuite de il a pas pris la meilleure décision non plus.
Écoute, il y a des choses qui s'améliorent, les gars. Je veux dire, je trouve qu'au niveau des chances franches qu'on accorde à l'adversaire, c'est mieux. L'adversaire récolte des tirs aussi. 27 tirs hier pour les Jets. Bon, tu regardes ça, 5 tirs en deuxième, 7 tirs en troisième. Il n'y a pas eu énormément de chances de marquer pour les Jets. Puis ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir que ça fait 2 ou 3 matchs que c'est mieux. Aussi, on trouve le fond du filet en avantage numérique. Ça, c'est mieux aussi. Moins de pénalités. Ça, c'est mieux aussi. Donc, il y a des signes encourageants. Mais dans l'ensemble, les gars, en tout cas, moi, je trouve qu'offensivement parlant, tu sais, ça manque encore un peu de tonus. Le nombre de chances de marquer de qualité pour le Canadien, il n'y en a pas assez. Puis on marque pas assez de buts. On marque pas assez de buts, là. C'est match après match.
Oui, puis c'est là, tu sais, on dirait qu'on n'en parle pas énormément, mais je pense que l'absence de Josh Anderson, ça peut paraître
c'est
aussi. Tu sais, c'était quand même un gars qui avait 9 buts. C'est un joueur, on parle de la prolongation, c'en est un. Lui qui en prolongation peut être bon avec le coup de patin qu'il a.
Il manque.
Ben c'est ça. Donc, tu sais, c'est sûr que son absence fait une différence, mais en même temps, si l'absence d'un allié de deuxième trio se fait ressentir tant que ça, ben ça en dit long aussi, par contre, sur le fait que le Canadien n'a pas des tonnes d'options non plus en attaque. C'est une formation, je continue à le dire quand même, qui est bien équilibrée,
oui.
Mais qui n'a pas des tonnes d'options de c'est ça, d'attaquants ultra talentueux.
J'ai de la difficulté à prendre position aujourd'hui, à savoir, tu sais, est-ce que c'est positif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est négatif? Parce que il y a du positif, oui, mais il y a encore beaucoup de négatifs. Il faut mentionner là, que les Jets de Winnipeg hier ont complètement dominé la première période, selon moi. Ont embouteillé le Canadien. Le Canadien n'était pas capable de sortir de sa zone. Les Jets ont marqué deux fois.
Cette chance de marquer.
Et tu sais, puis là, tu sentais que les Jets étaient en business puis pouvaient se sauver facilement avec ce match-là. Je pense que les Jets ont levé le pied. Pour moi, là, il y a des choses qui sont un petit peu alarmantes du côté des Jets de Winnipeg. On aurait pu carrément lever le match aux Canadiens. Ça n'a pas été le cas. Bon, Gallagher qui marque en avantage numérique. Bravo à lui. T'es à bonne place dans l'enclave. Prends un tir par réflexe et rétrécit l'écart à 2-1. Après, c'est deux bandes au coin, là. Toffoli, Suzuki, puis c'est un patin, puis ça rentre. C'est 2-2. Fait que mine de rien, pendant que les Jets ont levé le pied, ben le Canadien est revenu. Après ça, là, le Canadien a commencé à jouer hockey. Là, on sentait vraiment qu'on était là. Mais je trouve encore une fois qu'après tant de blabla au courant des dernières journées, il y a tellement eu de comme Michael le disait, de processus, puis de petits détails. Moi, de voir le Canadien sortir comme ça en première période, ça m'a déçu. J'ai fait, mais mon Dieu Seigneur, on n'est pas encore rendu là. Tu sais, il y a de la job. Il y a beaucoup de job.
Ouais,
là.
Mais écoute, on va se le dire, les gars, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, dominer trois périodes, là, c'est très difficile. C'est très rare que à la fin de la game, tu dis, ben moi, j'ai dominé les trois périodes. T'as toujours une équipe qui va aller chercher une période. Hier, les Jets ont gagné la première période. Moi, ce que j'ai aimé sur les buts qu'on a marqués, c'est qu'on avait du trafic devant le net. Je pense que sur les deux buts, t'avais deux gars devant le filet. Là, t'as eu des déviations, peut-être un peu de chance et tout ça, mais tu fais ta chance aussi. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Puis c'est des choses qu'on voyait pas il y a quelques semaines. C'est loin d'être parfait, là. On s'entend.
Est-ce que je suis seul à avoir trouvé que le Canadien était flat en début qu'ils sont laissés?
Moi,
j'ai trouvé qu'ils se sont laissés embouteiller facilement.
Oh oui.
Non, les Jets ont amené un échec avant à deux joueurs sur le même joueur.
Dès la dixième seconde, je pense, il y a une chance de marquer.
Ah oui, j'ai l'impression qu'on voyait pas le genre d'échec avant des Jets, puis on s'est laissé prendre là-dedans, puis on est tombé dans le sort mouvant tranquillement, pas vite. Pour moi, c'est une problématique.
Michael, je vais t'amener sur la statistique des tirs au but, parce que c'est drôle, parce que j'écoutais mon ami et notre collègue Jean-Philippe Bertrand en parlait justement à TVA Sports cette semaine. Il disait que l'année passée, je crois, ou cette année, où les Flyers sont 30e dans la ligue pour les tirs au filet, mais ils ont le plus haut taux d'efficacité de buts marqués par rapport aux tirs obtenus. Parce que, si je me trompe pas, l'année passée, derrière les Golden Knights, le Canadien, c'était l'équipe qui avait le plus tiré au filet. Puis ça rentrait pas plus, là. Mm. Alors, là, on est en train de revoir ça. Beaucoup de tirs au filet de la part du Canadien. Mais pas nécessairement énormément de chances de marquer. Michael, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Ouais, ben je te rejoins quand tu dis que toi t'aimes la présence devant le filet. Moi aussi j'aime ça. Puis règle générale, quand tu vas dans cette zone payante là, il se passe quelque chose. Tu sais, peu importe que tu marques ou pas, tu vas avoir des chances de marquer, tu vas avoir des retours de lancer. Mais là, dans les dernières semaines, ça avait fait un peu défaut. Alors, tu sais, oui, il y avait des lancers, sauf qu'on dirait que le Canadien était jamais bien positionné pour aller chercher les rondelles payantes là, des rondelles libres, des retours de lancer, des bons chanceux. C'est exactement ce qu'on a vu dans le match d'hier. Je suis d'accord avec vous autres. S'attendre à ce que le Canadien joue 60 minutes à pédale au fond tout le temps, on verra pas ça. Mm. Mais quand tu pars tout le temps en arrière, puis tu joues du hockey de rattrapage, puis tu as de la misère à marquer des buts, ben à la vitesse à laquelle le Canadien marque en ce moment, peut pas se permettre tout le temps de partir des matchs 0-1, 0-2, puis essayer de jouer du hockey de rattrapage. Ils sont pas capables de marquer 3, 4, 5 buts vues par match de par les temps qui courent. Fait, moi, l'histoire des lancers, j'aime ça. J'aime voir le Canadien actif, utiliser son lancer. T'sais, un gars comme Jonathan Drouin, je pense qu'il gagne à l'utiliser davantage. Il y a des joueurs chez le Canadien. T'sais, on a beaucoup vu Toffoli, on a vu Anderson qui ont justement utilisé cette arme-là. Il y en a qui sont capables d'avoir de bons lancers. Mais en même temps, il faut que tu sois là pour récupérer les rondelles autour parce que sinon, il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de lancers qui vont mourir là, un peu comme ça a été le cas dans les dernières semaines.
Ben c'est ça, c'est, en fait, le point dont tu parles d'aller au filet, c'est combien de fois qu'on a dit dans les dernières semaines, et on le disait l'année passée aussi, à quel point les autres gardiens, des fois, paraissaient tellement bien contre le Canadien. Puis des fois, t'arrivais, puis plus tôt cette saison, on l'a eu avec Matt Murray, qui est arrivé à Montréal, qui avait une moyenne de 4, puis l'efficacité de Mike Liut en 86. Puis il arrive à Montréal, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui rentre. Mais c'est ça, c'est que justement, le Canadien génère beaucoup de tirs, mais sans nécessairement mettre de circulation au filet. Et puis ça fait en sorte que c'est des gardiens qui traversent de mauvaises séquences, on dirait, avaient toujours tendance à se replacer devant le Canadien. Puis là, ben hier, on a créé du trafic, tout ça. Connor Hellebuyck, il a bien joué là, hier, sauf que quand tu dis deux bandes au coin, ben c'est ça, là, les Canadiens ont marqué deux.
Il y a une
deux
séquence qui était vraiment spectaculaire à un moment donné, là, c'est jeté de côté un peu, mais à part de ça...
Ben ouais, mais les Jets, on a marqué un de même aussi hier, là, un patin sur le côté.
Exact, mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu marques ce genre de but-là, ben même si tu affrontes un des meilleurs gardiens de la Ligue, ce qui est Connor Hellebuyck, ben tu réussis à marquer quand même trois buts, ce qui est une preuve que le Canadien offensivement a quand même réussi à faire des bonnes choses, même si c'était pas des beaux buts.
Moi messieurs, là, je veux pas partir de la chicane, mais Mick, quand tu dis, tu sais, faut pas s'attendre à voir le Canadien jouer pendant 60 minutes, là, tu sais, je sais que c'est un mythe de parler de 60 bonnes minutes de jeu. Mais si le Canadien est pas capable d'avoir trois bonnes périodes pendant un match, excusez-moi, le Canadien sera pas des séries. Là.
Ouais, mais c'est
parce que les autres clubs, ils sont capables d'avoir trois bonnes périodes.
Ben, ça dépend. Dans 80% des games, là, t'as un club qui gagne deux des trois périodes, pis c'est le club qui gagne. Ben, normalement.
C'est juste que disons que le Canadien a pas le talent, je pense, pour justement être l'équipe qui perd deux périodes, c'est ça.
Exact.
Pis ça me fait penser le match de mardi, quand le Canadien a battu les Sénateurs. Après le match, l'observation de DJ Smith, l'entraîneur des Sénateurs, il a dit: on a joué un bon match, on a eu cinq mauvaises minutes. Mais t'es les Sénateurs d'Ottawa, t'as cinq très mauvaises minutes, ben voilà, tu perds 2-1, puis c'est
donc pour le Canadien, Guillaume l'a mentionné, c'est un club qui est pas rempli de super vedettes, mais un club bien équilibré. Là, il manque Josh Anderson. Mais clairement, si tout le monde n'est pas là à 100% pendant trois périodes de jeu, ce club-là va nulle part. T'as beau avoir Jake Allen qui arrête les rondelles sur la tête, tu le vois, là, c'est pas juste une question de gardien de but.
Non, non, non.
C'est une question de jeu collectif. Si tu laisses l'autre club prendre la place, tu gagneras pas. Puis c'est tout.
D'ailleurs, je trouve ça triste pour Jake Allen parce que moi, je l'ai dit, ça a été un des meilleurs joueurs du Canadien au mois de février. Ça fait un mois qu'il n'a pas gagné une game. C'est ça la réalité. Donc, il est là, il fait tout ce qu'il peut, mais là, j'ai un peu peur que la confiance devant lui commence à s'effriter parce que le gars a bien beau connaître quand même des bons matchs dans l'ensemble. Quand tu gagnes pas, ben c'est ça la réalité.
Je pense pas.
En parlant de gardien, les gars, faut absolument revenir sur le congédiement de Stephen Waite cette semaine. Premièrement, avez-vous été surpris? Avez-vous un problème avec le fait que Bergevin n'a pas été consulté, n'a pas consulté son gardien avant de prendre cette décision-là?
Regarde, arrête. C'est sûr que se sont parlé. Je suis pas au courant de la journée avant, là, mais ils se sont parlé une semaine avant, semaines avant. C'est sûr qu'il y a une conversation à un moment donné. Je te dis pas que Carey Price a dit, hey, moi, il faut congédier Stephen Waite, mais tu sais, il a peut-être dit, ouais, écoute, je sais pas, c'est down, puis tu sais, je sais pas. C'est sûr que Bergevin a parlé avec Carey Price. Maintenant, s'il y a quelqu'un au monde qui dit, moi, je suis pas surpris, excusez-moi, là, moi, je m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Et ce que je trouve dommage, c'est que les attentes sont élevées. Ça, c'est un cliché que je suis tanné. Comme la visioconférence, présentielle, plus capable. Et les attentes sont élevées, je suis plus capable aussi. Tu sais, là, ça, c'est dans la série, je suis plus capable.
Moi aussi, je vais dire de quoi je suis plus capable tantôt, là, vas-y.
Moi, là, je sais que les attentes sont élevées. Je le sais, Marc Bergevin, il dit en tapant sa table en même temps quand il parle, les attentes sont élevées. Parfait. Mais là, quand t'as un peu de pression, puis je lisais aujourd'hui, je pense que c'est Jonathan Bernier qui disait, entre autres, que Stephen Waite a dit, que Marc Bergevin a dit la chose suivante, c'est que si Carey se replace pas, je suis le prochain à perdre ma job, tu sais. Mais ça traîne alentour de lui, ça traîne alentour de tout le monde. Tu sais, à un moment donné...
Ça oriente ses décisions.
Exactement. Est-ce que ce sont des décisions éclairées? Je le sais pas. Je peux pas dire que c'est de la panique, mais il y a de la pression, par contre. C'est clair qu'il y a de la pression. Puis c'est pas à cause que tu agis sous l'émotion, sous le coup de l'émotion, que tu prends toujours les bonnes décisions.
Ouais. Mais moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que tu prends cette décision-là une semaine après les autres. Tu sais, normalement,
mais c'est ça.
Tu fais ton ménage, mais ben c'est bizarre un peu d'attendre une semaine. Je trouve que ça, c'est plus bizarre que le fait qu'il lui ait annoncé après la deuxième période.
Ben c'est ça, c'est vraiment dans la façon que ça s'est fait et dans le timing. Parce que du reste, tu sais, je veux dire, moi honnêtement, écoute, deux jours avant que ça arrive, je m'étais posé, tu sais, c'était le dimanche de congé du Canadien. Fallait que j'écrive un texte, on appelle des textes de journée de congé, justement, là, où t'as pas d'accès média ou rien. Puis une des questions que je m'étais posée, je m'étais dit, bon, est-ce qu'on est rendu à parler peut-être de Stéphane White, mais en même temps, bon.
Ça aurait été fait avant, à la limite, s'il y avait eu quelque chose.
Ben c'est ça que je me suis dit. Puis ensuite, je me disais, c'est ça. Est-ce que tu fais ça en cours de saison? Non. Si tu le fais, tu le fais en même temps que les autres.
Ton gardien est déjà ébranlé, tu veux-tu l'ébranler davantage?
Ben c'est ça, exactement. Il y a une bonne relation avec Carey Price. Donc, tu sais, tu mets tout ça ensemble. Tu sais, OK, le problème est peut-être pas là. De toute façon, tu regardes à New York, par exemple, Benoît Allaire, Henrik Lundqvist, ils ont travaillé ensemble pendant 15 ans. Tu sais, ça arrive des relations coach de gardien avec gardien. Ça dépasse la durée de vie d'un cycle de vie d'entraîneur normal. Là. C'est complètement une autre dynamique.
Je vais vous faire écouter un extrait sonore, OK, qui me confirme à moi que Jérémy, t'es sur le piton. Ils se sont peut-être pas parlé cette journée-là. Mais Bergevin savait clairement que Carey Price avait besoin d'un changement. Parce que la question est posée à Carey Price. Quand est-ce que ça a commencé à mal aller avec Wade et tout ça? Et là, il y a une chance en or de dire, ben non, ça n'a pas rapport avec lui, c'est pas parce que son message passait pas, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas dans ma bulle. Écoutez ce qu'il répond.
Sometimes change is good. Sometimes it's just good to hear a new voice. You know, it's not to say that I didn't appreciate what Steph was doing. It's just sometimes it's a necessity in pro hockey.
Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, des fois, à un moment donné, le message passe plus. Des fois, t'as juste besoin d'un changement. C'est pas parce que je ne l'appréciais plus, mais des fois, c'est une nécessité
pire que ça.
Dans le monde du sport. Et là, on le sait qu'il est allé le visiter chez lui.
Mais je pense que ce sont de bons amis. Là. Ils se respectent. Là,
oui, c'est ça.
Là. Ce sont deux pros. Là. Mais pire que ça, John Liu pose une question à la 6e minute du point de presse de Carey Price, je me souviens pertinemment. Pose une question. Qu'est-ce qui vous a amené, toi et Stéphane, à aujourd'hui être obligé de vous séparer dans votre relation professionnelle? Sa réponse a été plein de petits facteurs.
Ben, okay? C'est ça.
Plein de petits facteurs. Puis là, il demande, est-ce que c'est psychologique ou techniquement où vous avez eu des divergences?
Les deux.
Il dit les deux.
Ouais.
Fait que là, on a la réponse.
Non, non, c'est ça.
On a la réponse.
C'est clair qu'ils sont sur la même page. Michael, je te laisse poursuivre là-dessus.
Ben, moi, ce que j'aurais aimé de voir de Carey Price, c'est un petit peu plus d'imputabilité. Écoute, il a l'expérience pour prendre une certaine responsabilité dans cet échec-là. Marc Bergevin parlait de pattern dans les dernières années, qu'il aimait pas voir se répéter, tout ça. Tu sais, il y a Carey Price a une responsabilité là-dedans. Je comprends que le coach des gardiens, bon, c'est la courroie entre le gardien et le reste de l'équipe. Il est responsable aussi d'une certaine progression, d'une certaine appuyer le gardien dans les moments plus difficiles et tout ça, mais tu sens pas, tu sais, tu sens rien là, tu sens là que le gars il est complètement distancé avec Stéphane Wade. Il a pas l'air tant que ça à prendre ça, à se désoler, à tu sais, moi je comprends qu'il est allé chez eux puis qu'ils ont eu une bonne discussion, tant mieux. Mais tu sais, publiquement, moi j'aurais aimé ça voir Price aller au bat un peu puis faire face à la musique puis prendre une petite part de responsabilité. Tu sais, je dis pas de prendre ça sur son dos là, mais écoute, il y a une part
zéro.
De
responsabilité. Zéro.
C'est zéro, on s'en
zéro. Zéro. Jamais, il sort puis il dit, tu sais, j'aurais pas en faire plus. Jamais. C'est clair qu'il est sur la même page que Bergevin là-dessus. Il y a aucun problème. Ça sort pas de nulle part, cette histoire-là.
OK, mais attends, là ça nous amène à un autre raisonnement. Là. Puis Guillaume, je vais t'entendre là-dessus. Là. Si Carey Price parle à Marc Bergevin fait, OK, qu'est-ce qui se passe avec mon gardien de but? Puis là, on ajoute là, tout ce qu'on entend là, récemment, l'entrevue avec Mario Landlois où Stéphane White dit...
Écoute, très bonne entrevue, soit dit en
passant. Je m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Ce qu'on disait chez vous à l'après, vous avez parlé avec. Journal de Montréal a parlé avec également. Là, ce qu'on comprend, c'est que Marc Bergevin fait « OK, oups, ça va pas. Et si ça va pas pour Carey Price, moi, ça se peut que je perde ma job. Qui dans l'organisation peut me donner un coup de main? » Appelle Sean Burke. Sean Burke est un ancien... « Hey, Sean, t'as-tu checké? T'as-tu regardé? »« Ah oui, j'ai checké. Qu'est-ce que tu ferais? »« Ah, je ferais ça. »« Ah ouais, tu sais, comme la belle-mère qui disait... »« Non,
tu vas venir. »«
Ouais, tu viendras-tu?
»
Et là, mettons, là, on fabule, on dit n'importe quoi. Là. Mettons qu'il dit, ben là, attends, tu veux que je m'en aille là? Ben là, j'ai pas la réponse suite. Attends. Finalement, sur le téléphone. C'est beau, je vais y aller. Pau, congédie Stéphane White. Merci, bonsoir. Fait que, je me dis, puis j'amène une autre question. un moment donné, quand un gars a de la pression comme Marc Bergevin, est-ce que c'est bon qu'il reste comme ça tout le temps dans l'entourage du Canadien? Est-ce que c'est bon qu'il voyage tout le temps sur la route avec les gars? Est-ce que c'est bon qu'il soit là tout le temps?
Ouais.
Est-ce que Bergevin ne devrait pas un peu rester à Montréal? Laisse les gars aller jouer un peu?
Mais ça, il y a quand même beaucoup de DG qui suivent leur équipe comme ça à l'année. Là, j'ai mis à part...
Il y en a-tu bien qui sont sur le spot comme lui?
Non, mais tu sais, l'autre chose qu'il faut pas oublier aussi, tu sais, Bergevin, au fil des années, des fois, il y a des moments où il fait des voyages parce qu'il va, il va assister à un championnat du monde, parce qu'il va en Russie voir des espoirs qui jouent, quoi que ce soit, mais là, ou voir des espoirs d'autres niveaux. Mais là, en ce moment, on le sait, le hockey tourne au ralenti, les voyages sont compliqués. Marc Bergevin, c'est pas mal la seule place où il peut se tenir. Il doit rester dans la bulle de l'équipe.
Ouais.
Donc, tu sais, je veux dire, dans les circonstances, de toute façon, il a pas le choix d'être là, mais effectivement, dans les circonstances, quand on connaît la pression qu'il y a sur lui, puis visiblement la pression qu'il ressent lui-même, comme il semble l'avoir dit à Stéphane Waite, c'est sûr que c'est particulier comme dynamique.
Je trouve qu'on
mais
tourne,
il est condamné.
On tourne autour du pot, là. Puis il n'y a personne qui dit les vraies affaires. Ce gars-là, là, vous l'entendez, là, moi je suis dans le vestiaire, Guillaume, t'es là, Jérémy. Je veux dire, écoute-les parler, là, Carey Price, là. Il a le goût de s'ouvrir les veines. Il est là en point de presse. Ça y tente pas d'être là. Ça y tente jamais d'être là. Ça y tente jamais de parler. C'est des réponses de 3-4 mots. Je veux dire, le gars, là, il a des problèmes dans la tête. Il l'a dit lui-même. C'est entre mes deux oreilles. Mais maudite affaire, c'est quand la dernière fois que vous avez senti que Carey Price, là, il était heureux ici? Moi, là, ça fait des années que je le dis, ce gars-là, il a besoin d'un changement d'air. Parce que ici, là, il étouffe. Puis ça remonte aux années de, je suis pas capable de sortir dehors avec mon capuchon parce que tout le monde l'ermite, là, puis tout ça. Écoute, il étouffe, ce gars-là, dans ce marché ici.
Je pense pas.
C'est année après année après année.
En série, il avait l'air heureux.
Ouais, il avait l'air assez heureux.
Ah, mais il était pas à Montréal. Il était dans la bulle à Toronto.
Oui,
non. C'était une autre histoire, les gars. As-tu entendu la réponse quand Eric Engels lui dit, quand tu nous parles, puis quand tu agis, on a l'impression que tu t'en tabarouettes.
Don't care anymore.
I don't care anymore. Mais moi, là, quand je dis à mon boss, là, I don't care anymore, ça veut dire que c'est peut-être le temps de passer à d'autres choses. Guys, là.
Mais je comprends Philo ton envolé pulmonaire là-dessus là, mais attends une minute. La job de ce gars-là, c'est de mettre des grosses pads blanches ou rouges comme vous voulez, mettre des grosses pads par état rondelle, OK? Il y a de la difficulté avec ça au courant des dernières années, il y a eu des moments qui sont bons puis des moments qui sont difficiles. Maintenant qu'il soit mauvais en point de presse, je pense que ça c'est Jeff Molson qui doit dire à un moment donné, hey Carey, fais un peu de sourire parce que t'es là, tu vends des tickets, tu vends des chandails.
Ça tente pas.
T'es notre visage.
Non mais ça me tente pas.
Hey, moi là, je gagne 10 millions. Attends, t'es pas content, garde.
Ah ouais, non, mais je t'en donne 10.5. Fait que pour 10.5, tu vas me faire une coupe de sourire puis tu vas arrêter rondelle.
Ça va empirer les choses.
Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça, Jeff Molson devrait faire ça. Maintenant, qui aime répondre ou non, ou qu'on analyse avec de la psychologie, là, qu'on analyse son non-verbal, je pense que moi, je veux le voir arrêter rondelle. C'est ça sa job, arrête-le pas.
Faut que tu sois bien entre les deux oreilles pour arrêter des rondelles.
Parce que
il l'est pas.
Oui, mais faut pas oublier que ce qu'on voit de lui en conférence de presse, là, c'est 7 minutes dans sa semaine. Là. Je veux dire, je veux pas. Moi, je refuse.
Guillaume,
je, comme tout le monde, je suis
heureux,
déçu.
Est-ce qu'il y a juste comme ça?
Oui, mais il y a la personnalité du gars aussi. Je veux dire, c'est un gars qui est profondément, qui ne cherche pas l'attention, qui aime pas l'attention.
Souviens-tu d'Eric Cole? Eric Cole avec le Canadien, il était bête comme ses pieds.
Moi, je vous garantis une chose.
Il était bête comme ses pieds, puis...
Mais moi, je vous dis une chose, OK? Comme Max Pacioretty, là, si Carey Price s'en va ailleurs dans un marché non traditionnel de hockey, il redevient le Carey Price. Il va être libre, ben, dans sa tête.
Peut-être devant le filet, mais je te garantis que tu le verras pas sur TikTok faire des vidéos, puis
peut-être pas.
Ça sera pas lui qui va faire la clip de la semaine.
Écoutons Stéphane Waite sur la nonchalance de Carey Price, puis Michael, je te laisse ensuite de ça embarquer dans la discussion.
Ouais, qu'il y en a tout ça des fois, là, il est up ou il est down ou whatever. Mais c'est un gars qui sait premièrement qu'il faut qu'il travaille là-dessus encore. Ça fait 8 ans que je dis, il s'est fait dire avant moi, il va se le faire dire encore. Puis il m'a encore confirmé hier, il dit c'est quelque chose que faut que je m'adapte tout le temps comme moi-même pour faire attention à mon body language. Et puis il fait pas ça dans le sens de vouloir être nonchalant, même si c'est ce qu'il a l'air. C'est ce qu'il est comme gars. Et tu vois marcher dans la rue, tu vois marcher à l'aréna, tu le vois, il marche comme ça. C'est son bas, il est de même. Mais il sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'il passe pas bien puis qu'il faut qu'il fasse attention. Mais c'est pas de la nonchalance. C'est pas ça, même si c'est ce qu'il dégage.
Michael?
Ben, ce que ça veut dire, cet extrait-là, c'est que sur la glace, ça peut déranger, ça peut affecter l'équipe. On parle des conférences de presse, des points de presse. Moi, à la limite, là, tu sais, bon, tantôt, je me suis un petit... Moi aussi, j'ai envolé pulmonaire concernant la conférence de presse. Mais là, ce que Stéphane Waite nous dit dans cet extrait-là, puis moi, je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est aussi que ça a une influence sur la glace, dans le vestiaire. Ça dépasse là les caméras. Là. Fait que, tu sais, ça... puis, on écoute, depuis le début de la saison, que c'est ça avec Carey.
Ça fait des années.
C'est ça depuis les premières pratiques de la saison.
Ouais, ben c'est parce que aussi c'est que la question du body language, faut juste pas mélanger les choses. Tu sais, les conférences de presse, la présence devant les caméras, c'est une chose, mais le body language, ça, effectivement, Stéphane White a un bon point. Puis c'est vrai que quand Price a des difficultés, son body language est très négatif. Et ça, c'est vrai que ça peut être lourd pour des coéquipiers. Surtout, tu sais, quand un gars a autant d'ascendant sur ses coéquipiers et que son langage corporel est celui qu'on voit depuis quelques semaines, c'est sûr que ça peut pas créer un bon...
Et je veux juste ajouter quelque chose. Et là, on vient d'entendre un extrait de l'entretien de Mario Langlois avec Stéphane White.
Exact.
Et à travers ça...
Il est disponible sur notre site, soit dit en passant.
Et à travers ça, on vient d'ajouter une couche sur on comprend mieux pourquoi. Parce que Stéphane White dit, ça fait 8 ans que je lui dis. On lui a dit avant, puis on va lui dire après. Tu sais, là, ça, c'est une autre affaire. Price, il est là... Écoute, ça marche pas, son histoire. Puis là, t'as le coach qui dit, check ton body language, check ton attitude, check ci, fais ci, fais ça. À un moment donné, regarde.
Je te dis, c'est un gars qui a besoin d'un changement d'air.
Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est un gars qui a besoin d'avoir du fun et de s'amuser.
Ah, ben oui, c'est ça, exactement.
Et présentement, lui, était convaincu qu'avec un bon club comme ça, puis là, écoute, ça, c'est de la théorie à Saint-Saëns, là. Mais avec un bon club comme ça, il s'est dit, on va avoir du fun cette année. Ouais. La seule affaire, c'est qu'il s'en va dans le filet avec un drôle de masque et un bout de cerveau dessus, avec des jambières rouges. Puis, tu souviens-toi, il avait dit qu'il était pour les brûler, ces jambières rouges. Coupe d'année.
Il y a 10 ans,
avec ses jambes bien rouges, là, cette année, c'est la bonne année, on va gagner. Là, lui, ça va pas bien, mais le club gagne.
Guys.
Mais lui, ça continue à pas bien aller.
T'sais, quand ton body language, ça glace, il est négatif, puis dans les points de presse, c'est plate à mort, puis t'as le goût de te tirer une balle dans la tête en l'écoutant. Tu vas pas me dire que dans le reste de sa vie, tout va bien. C'est pas compliqué pourquoi il est pas bien entre les deux oreilles, ce gars-là. Là.
Moi, je suis convaincu que ça va très bien dans le reste de sa vie. Ben, ça va bien avec ses enfants, ça va bien avec sa famille. Ça doit super bien aller. Mais là, à un moment donné, faut que les performances suivent sur la patinoire, là.
Ben, c'est ça. Bon, il vient d'avoir un autre enfant, puis il me semble qu'on a eu la même discussion il y a une couple d'années quand l'autre est né, mais en tout cas, ça, c'était une autre histoire. Petite pause, et ensuite de ça, on va parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Voilà, de retour maintenant pour les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Et Monsieur Sourire revient dans la Ligue nationale. Oui, Daryl Sutter, l'entraîneur des Flames de Calgary, qui revient à la charge pour un second mandat avec l'organisation maintenant que Jeff Ward a été congédié. Écoute, deux congédiements, les deux dans la division canadienne. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à
après
ça.
Après une victoire des Flames.
Et une victoire de 7-3.
Une victoire de 7-3 des Flames.
Ils venaient de perdre contre Ottawa 5-1 la veille ou l'avant-veille.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, ils ont séparé, c'était 4 matchs de suite qu'ils jouaient contre les Sénateurs. C'est quand même particulier. Écoute, les Flames ont perdu 6-1 et 5-1, ont gagné 6-3 et 7-3. C'est quand même, c'était quand même particulier comme série, mais ça reste que une série de 4 matchs avec le talent des Flames comparé à celui des Sénateurs, ça aurait pas dû être séparés comme ça.
Exact.
Les équipes, tu sais, honnêtement, moi, en début de saison, je m'attendais pas à beaucoup de changements d'entraîneur à cause des contraintes liées à la pandémie.
Les quarantaines, puis tout ça.
Les quarantaines, exact. Mais finalement, ça semble pas du tout ralentir les équipes, là.
Michael, là-dessus?
Je voulais ajouter que, tu sais, Sutter, la famille, c'est une famille mythique dans l'ouest du pays. Nous autres, on dirait qu'on a l'impression que, c'est pas une famille qui nous est nécessairement charismatique, mais tu sais, moi, j'ai couvert des championnats du monde junior dans l'ouest, puis tout ça, puis écoute, les Sutter, là, c'est de l'or en bas, puis juste à voir la réaction des gens de Calgary, c'est très bien accueilli, les gens, il y a un attachement pour lui, tout ça, puis ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'on redonne des deuxièmes chances à des entraîneurs qui ont déjà passé par Montréal. Ça arrive aussi dans la Ligue nationale. Fait que c'est ce que je voulais ajouter sur ça.
Ouais, en tout cas, écoute, c'est sûr que c'est pas un concours de beauté qui va gagner, lui, ça, c'est certain. Il va dire, moi, là, je veux vendre mon club, je veux vendre le hockey dans ma ville. Une chance que Calgary, c'est une ville de hockey.
C'est un bon coach. Combien de championnats qu'il y a eu, ça?
Ben, 2 Coupes Stanley, une finale avec les Flames. Puis entre ces 2 Coupes Stanley avec les Kings, ils ont été en finale d'association. Bon. C'est quand même pas rien. Puis il est est plus charismatique que ce qu'il laisse croire de l'extérieur. C'est un gars qui a quand même un bon sens de l'humour, pince sans rire.
Il pourrait sourire un peu plus souvent.
Ouais, je te garantis qu'on va s'amuser avec les conférences de presse des Flames. On va les voir beaucoup là, cette année, puis je pense qu'on va s'amuser.
Écoute, j'ai fait plusieurs conférences de presse des Flames, puis là, au bout de 5 minutes, il se passait absolument rien. Je cognais des clous en tenant mon micro. Puis là, tout d'un coup, il nous sort une ligne, puis t'es comme, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il vient de tout
suivre,
hein? Ça?
Parce que si tu suis pas, ça passe vite.
Puis c'est toujours sur le même ton, tu sais.
Oui, exact.
Puis là, t'es comme, attends une minute, là. C'est, en tout cas, bon.
Sur YouTube, il y a un montage de 15 minutes de ses meilleures entrevues.
Puis c'est quoi la recherche?
C'est simplement Daryl Sutter quotes sur YouTube. Puis tu sais, des fois, pendant les séries, là, il parle, puis là, c'est qu'il y a une façon très déstructurée de parler. Puis là, des fois, il partait, il disait, so, 3-0-6-7-4-1. Là, comme il fait juste lancer des chiffres comme ça. Puis là, lui, dans sa tête, il fait juste nommer tous les buts accordés dans les 6-7 derniers matchs dans cette série-là. Puis là, il te lance ça comme ça. C'est tout croche, mais
En
marmonnant, en plus, c'est vraiment drôle à écouter.
Bon, Mark Scheifele, hier, des Jets, ou avant-hier, je crois, a dit que les statistiques avancées, pour lui, c'était de la foutaise, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur une certaine statistique avancée concernant le capitaine Blake Wheeler. Et lui, il a dit qu'il ne croyait pas à ça, puis que ça tenait pas de bout, puis tout ça. Quelle importance vous accordez aux statistiques avancées?
Ben pour moi, les statistiques avancées sont extrêmement importantes pour les podcasts.
Mais on n'en parle pas tant.
Non, mais pas tant. Il y a plein de gens qui utilisent ça pour les podcasts. Mais concrètement, je pense pas que tu ne peux pas nier une tendance quand il y a une tendance. Ouais. Il faut que tu en sois conscient. De là à vivre chaque jour avec le fruit d'une statistique avancée, je pense pas. Mais tu dois l'utiliser comme outil. Selon moi, c'est ça que tu es obligé de faire.
Parce que, tu sais, il y a des statistiques comme, tu sais, le temps de possession. Tu es comme, on a eu le puck plus longtemps, mais on perd tout le temps. Tu sais, fait que là, tu te dis, comment ça marche cette affaire-là? Mais moi, pour avoir beaucoup suivi le baseball, j'ai comme l'impression que les statistiques avancées sont mieux pour un sport comme le baseball.
Un sport arrêté.
C'est ça. Tu sais, t'as 4 buts, t'as 3 retraits.
C'est essentiel.
C'est extrêmement mathématique, tu sais. Tu peux soutirer des informations plus, qui vont t'amener peut-être à une conclusion plus intéressante que du côté du hockey. Mais, j'ai trouvé ça intéressant que Mark, parce que c'est un gros débat, tu sais. Il y en a qui accordent une grosse importance, il y en a moins.
Ouais. Mais Paul Maurice c'est toujours très, 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 très bon en entrevue. Puis hier, il s'est fait questionner là-dessus, justement, parce qu'à Winnipeg, ça fait beaucoup jaser. Puis lui, un des très bons points qu'il a soulevé, c'est qu'il a dit, tu sais, premièrement, les statistiques avancées, il y a une espèce d'impression que la Ligue nationale est figée, puis que les statistiques sont seulement utilisées par des analystes, mais que dans la Ligue comme telle, on s'en sert pas. Il dit, non, on s'en sert depuis longtemps. Ça fait des années qu'on essaie de comprendre qui génère des chances de marquer, d'où viennent ces chances-là, comment ça se fait. Ça fait longtemps qu'on s'en sert, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que, il n'y a pas une statistique qui s'applique à toutes les équipes. Tu sais, je veux dire, chaque équipe a ses forces et ce qui est bon pour une équipe est pas bon pour l'autre. Tu sais, le Canadien, ça fait des années qu'ils ont des super bons chiffres de possession de rondelles. Tu sais, on n'arrête pas de le dire. Le meilleur Corsi, le plus de tentatives de tir, tout ça. Tant mieux, le Canadien paraît bien selon cette statistique-là, mais en même temps, ça mène pas plus à des résultats parce qu'on le sait, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup de tentatives de tir, mais c'est pas toujours des tirs de qualité. Ils ont pas de tireurs comme Carl Connor puis Austin Matthews. Donc,
c'est arbitraire un peu. Tu sais, c'est qui juge, tu sais, de la qualité du tir ou de la dangerosité du tir?
C'est plus le positionnement sur la glace.
T'sais. Ouais, mais encore là, tu sais, il faut que quelqu'un juge, OK, oui, OK, non.
Parce que Austin Matthews dans l'enclave, Philippe Dano dans l'enclave, résultat, il va être différent. Je suis pas mal sûr.
Ça, c'est certain. On va embarquer sur Brent Seabrook qui annonce pas sa retraite, mais explique qu'il ne pourra pas poursuivre sa carrière. Ça, il y a des technicalités, il y a des raisons techniques en arrière de ça qui impliquent le plafond salarial, le salaire du joueur et tout ça. On le place sur une liste de blessures à long terme. Il y a des avantages pour l'équipe, pour le joueur. Donc, il n'annonce pas officiellement sa retraite, mais il ne jouera plus au hockey. Michael, je te laisse peut-être commencer sur Brent Seabrook, qui a été un grand joueur. Il a gagné 3 Coupes Stanley avec les Blackhawks, mais a aussi porté l'étiquette du joueur qui avait le pire contrat de la Ligue nationale, parce que là, il a été beaucoup affligé par les blessures au cours des dernières années, n'a pas pu se rendre justice. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Brent Seabrook?
Ben écoute, c'est une belle carrière. Tu sais, quand tu regardes collectivement avec les Hawks, individuellement, c'était un bon joueur. Tu sais, il a gagné la médaille d'or. Il a été invité de, des matchs des étoiles. C'est une belle carrière, mais c'est sûr, bon, on regarde la fin de carrière qu'il a eu, les comptes, tu sais, ce que ça représente le contrat sur la masse salariale, tout ça, c'est sûr, bon. Il y avait pas retour sur l'investissement, on est tous d'accord avec ça, mais tu sais, je peux pas m'empêcher quand même de dire que c'était une super belle carrière qu'il a connue, c'est couronné de succès là, tu sais, il a fait partie de cette grande équipe des Hawks dans les belles années, donc moi je peux pas, tu sais, oui c'est sûr, je laisserai pas son contrat peut-être un peu venir un peu faire de l'ombre à la carrière qu'il a connue, parce que moi c'est un joueur que j'aimais bien.
Ben moi ce que j'ajouterais, c'est que ça confirme, ça fait une étape de plus dans le processus de transformation des Blackhawks. Tu sais, ça fait quoi, presque 15 ans qu'ils ont le même noyau, disons 12 ans qu'ils ont le même noyau dur, mais là bon, Corey Crawford qui est parti, Seabrook qui se retire sans prendre sa retraite, Jonathan Toews, on sait pas pendant combien de temps qu'il va y en avoir, sa carrière est pas finie là, du moins je serais le premier surpris, mais absent pour longtemps. Donc là, Patrick Kane et Duncan Keith doivent commencer à se trouver seuls. Puis là, Duncan Keith, 37 ans, il reste deux autres années de contrat. Est-ce qu'il va se rendre au bout de ce contrat-là? On verra. Mais il y a vraiment, c'est vraiment juste une autre étape dans la cure de rajeunissement des Blackhawks, qui sont une équipe qui surprend cette année jusqu'ici. Là, moi, je m'attendais certainement pas à les voir. Là, 12 victoires en 24 matchs, là, gagner la moitié de leur match jusqu'ici, de la façon que l'entre-saison s'était passé pour eux, là, c'est étonnant.
Mais tu parlais du pire, qui a eu l'étiquette du pire contrat de l'histoire de la Ligue nationale. Je pensais que c'était Rick DiPietro qui avait eu ce contrat-là.
Ah, il y en a eu une coupe.
Ou c'est quoi, Bobby Bonilla avec les Mets de New York?
Qui paye encore.
Qui paye encore aujourd'hui.
Oui, ouais, ça a l'air que, écoute, lui, là, il va marcher avec sa canne bientôt, puis il va encore
ramasser
les chèques des Mets. Ça, c'est assez incroyable. Mais ça, c'était un autre sujet. Je voulais quand même souligner le décès de Walter Gretzky à 82 ans. On devait pas en discuter dans l'émission, mais juste, tu sais, il a tellement été le visage du papa sportif au Canada, toujours très souriant, fier de son fils et tout ça. J'ai réécouté ce matin plusieurs entrevues avec lui, puis clairement, oui, il a motivé son fils, mais il l'a pas forcé. Tu sais, il faisait une patinoire dans le cours puis tout ça, mais Wayne avait une motivation hors du commun, même plus forte que celle de son père, comme quoi t'as pas toujours besoin de botter ton enfant dans le derrière pour qu'il se rende au plus haut sommet, là, comme il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, je vais juste souligner ça, puis s'il y a des parents d'athlètes qui nous suivent ou quoi que ce soit, peut-être prendre l'exemple d'un gars comme Walter Gretzky qui, on dirait, il a profité.
Mais je me demande comment il agissait avec son jeune. En fait, comment il agissait avec les autres parents, parce que quand ton jeune est le gars le plus exceptionnel qu'on a vu dans l'histoire du hockey et qu'il marque 8, 10 buts par match, comment les autres parents agissaient avec lui? Comment lui se sentait avec les autres parents?
Il en a parlé de ça. C'est à Brantford qu'ils viennent, je pense?
Oui.
Bon, il a été obligé de sortir Wayne du hockey là-bas parce que les autres parents, à un moment donné, ils disaient, tu sais, nos enfants n'ont jamais le puck, c'est toujours lui qui a le puck, c'est toujours lui qui score, c'est toujours lui la vedette. Tu sais, les parents lui ont dit, quand ton gars, il est pas capable de jouer parce qu'il est malade ou il est absent ou quoi que ce soit, nous autres, on est soulagés parce que nos enfants peuvent jouer. Wayne a joué à partir de 6 ans contre des enfants de 10 ans. Il a joué 5 ans contre des enfants de 10 ans. La première année, il a scoré un but. Il avait 6 ans contre des enfants de 10 ans. La dernière année, il en a scoré 378 dans tous les tournois, puis tous les matchs, puis tout ça. Écoute, je veux dire, puis son père, il a dit, on a eu beaucoup de misère avec ça, puis à un moment donné, il a fallu qu'on le sorte.
Mais tu vois, puis gars, on pourrait partir tellement là-dessus, mais tu vois, pour moi, il y a une problématique là-dedans. C'est que la problématique est la suivante, c'est qu'il fut un temps où un coach voyant qu'un joueur qui est exceptionnel, c'est tu lui donnes la rondelle puis va marquer des buts parce qu'on va gagner des matchs. Qu'un jeune en score 378 là, sincèrement là, dans la pédagogie du hockey là, on n'est pas là. Je dis pas qu'il faut l'empêcher de marquer des buts, mais clairement à l'époque c'était vas-y mon grand, va marquer des buts comme Guy Lafleur, Marc Zandis, Marc Zandouze, on va gagner. En quelque part, c'est pas tant juste ça le hockey, c'est autre chose que juste ça le hockey.
Ouais. En tout cas, écoute, Il y a été
un commentaire éditorial, mon Dieu.
Michael, là-dessus, sur le père de Wayne?
Oui, ben, je bouclerai la boucle en disant que ceux qui l'ont plus connu au Québec, ce sont les gens de Gatineau. Parce que lorsqu'il a acheté les Olympiques de Hull, Wayne Gretzky, Walter était beaucoup à Hull. Puis lorsqu'on va en Outaouais, on entend beaucoup parler de cette famille-là, les liens que Walter a tissés avec Charles-Henri, qui était un des grands noms de l'histoire du hockey au Québec. Puis tu sais, je pense que, en tout cas, tous les échos qu'on a, c'était quelqu'un de très simple, puis de très avenant, tu sais, qui prenait le temps de jaser avec tout le monde. Donc, il a tissé des liens au Québec, pas comme il le fait un peu en Ontario puis partout au Canada, mais il y a quand même des racines profondes de Walter Gretzky. Puis je suis persuadé qu'aujourd'hui, des gens de Gatineau, de l'Outaouais, sont émus de voir qu'il nous a quittés.
Écoute, Walter expliquait dans une entrevue que, justement, son fils était plus motivé par le hockey que lui. Il dit, il regardait les games à la télé, puis il se faisait trois feuilles blanches, OK? Puis là, il regardait les gars sur la patinoire, où ce qu'il était avec la rondelle, puis il faisait des lignes sur sa feuille pour montrer où ce que les gars étaient, où la rondelle était, puis il dit, papa, tu vois-tu où les lignes se croisent? Ça, c'est où ce que le puck est le plus souvent dans le game.
Là, juste pour clarifier, il parlait de Wayne ou de Brent, là, quand il racontait?
Non, il parlait de Wayne. Il disait, à un moment donné, il dit, écoute, je regarde le bulletin de sport, il dit, ça finit à 11h30, je m'en vais me coucher, je me rends compte que mon petit est pas dans son lit.
Aïe.
Il dit, je l'avais oublié, sa patinoire en arrière. Il dit, ça devait faire 2 heures qu'il était là tout seul, puis il faisait des contours, ses comptes, puis il accrochait des canettes dans son filet, puis il shotait ses canettes.
Mais t'imagines, t'es le frère de Wayne Gretzky.
C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, on fait une petite pause, les gars. On a deux questions du public au retour de ceci. Nous voilà de retour pour les questions du public. On en a deux aujourd'hui. On va commencer avec celle de Jean-Sébastien Hull. Est-ce qu'une équipe peut gagner une Coupe Stanley en 2021 si le gardien est la grande vedette de l'équipe? Est-ce que le modèle de miser sur une bonne attaque, bonne défensive, quitte à avoir un gardien dans la moyenne, est plus gagnant maintenant? Écoute, moi, je répondrais que non, ce n'est plus possible. Si ton meilleur joueur, c'est ton gardien, comme c'était à l'époque pour Martin Brodeur avec les Devils, c'était ça. Et ils en ont gagné des Coupes Stanley et ça fonctionnait à l'époque. Moi, je ne pense plus que c'est le modèle.
Est-ce qu'on entend Carey Price en arrière? Carey Price!
Non, non!
Carey Price! Carey Price!
Jean-Sébastien ne fait que poser une question.
Ben oui, arrête.
Non, mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Puis je veux dire, le Lightning l'a montré l'année passée. Là, Andrei Vasilevski, c'est peut-être pas le meilleur joueur
de l'équipe.
T'sais, de façon aussi claire, parce que t'as également Kucherov, t'as également Braden Point, t'as Victor Hedman, mais c'est quand même un des 3, 4, 5 meilleurs gardiens de la ligue et ça a pris lui, puis il a quand même joué pour 927 en série, là, Vasilevski, c'est pas rien. Ouais. Donc un empêche pas l'autre. Je pense que le problème est plus justement, c'est que si vraiment ton gardien est à ce point supérieur au reste du groupe et que tu manques de talent ailleurs, tu gagneras pas. Mais je veux dire, ça empêche pas le fait que ça te prend un bon gardien là, puis que tu te rendras pas avec un gardien super ordinaire, là, je veux dire.
Faudrait juste à cette heure que le Canadien se trouve un gardien qui soit le meilleur de l'équipe. Michael, là-dessus?
Ouais, ben moi, je vais être cohérent avec ce que je vous avais dit en début de saison. On avait déjà posé une question un peu semblable à ça. Fait que visiblement, les internautes ont de la suite dans les idées.
Ouais.
Mais par rapport au... tu sais, je pense que c'est une question de répartition de salaire aussi. Puis moi, je pense pas que c'est une bonne idée d'avoir un très, très... Ben, du coup, parmi les plus hauts salariés, sinon le plus haut salarié de l'équipe à la position de gardien. Mais tu sais, tu as besoin d'un bon gardien pour gagner quand même. Donc, ultimement, là, faut que tu saches faire la juste part des choses dans tout ça.
Puis c'est un peu le même débat qu'au baseball. T'sais, tu veux-tu donner ton argent à un lanceur qui lance aux 5 jours? Puis tu sais, là, tu sais que ton gardien, il sera pas là devant la cage tous les matchs. Il va falloir qu'il partage le travail avec un autre gardien. Donc, c'est un débat mathématique aussi.
Mais ça va être intéressant de suivre le Lightning. Parce que là, bon, oui, l'an passé, Vasilevski était encore sur son deuxième contrat. Mais là, cette année, il gagne 9,5. Jusqu'à date, c'est lui le joueur le mieux payé de l'équipe. Là. Ouais. Donc, jusqu'ici, ça n'a pas trop l'air de le ralentir. Là. Donc,
Dernière question, et non la moindre. Attention, Mathias Laberge qui nous pose comme question. Y a-t-il une chance que le Canadien, un jour, donne l'opportunité à Patrick Roy de coacher cette équipe?
OK, une réponse honnête, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. En ligne de compte, c'est Marc Bergevin qui est DG. Je pense pas que ça va arriver. Deux coques dans basse-cour, ça fonctionne pas.
Ouais.
Par contre, si Marc Bergevin est pas là, je sais pas, mais...
Mettons que tu pars à neuf.
Non, non, mais est-ce que moi, je vois plus Patrick Roy comme directeur général du Canadien? Peut-être. Pas mal plus que coach.
Ouais, mais...
DG, occupe-toi de l'organisation, occupe-toi de l'image. Mets ça à ta façon, à ton goût. Je le vois plus comme mais DG,
c'est,
moi.
C'est tough, DG. Hey, aujourd'hui, les choses changent tellement
DG.
Vite avec
plus, DG,
le plafond salarial. Il faut quasiment que tu sois un avocat de formation.
Non, 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 ils ont des spécialistes.
Ben, c'est ça, exact. Il y en a un avocat de formation, c'est John Sedgwick. Lui, ouais. S'occupe de ça.
Il fait que ça.
Ben c'est ça.
Donc, moi, comment t'appelles ça au soccer là, avec l'impact?
Le directeur technique.
Non, le capologiste.
Sportif, ouais, le capologiste.
Bon, ben il y a un capologiste aussi chez Canadien.
Ben c'est ça. Non, les équipes en ont pour ça. Moi, c'est plus, je sais pas si je vois Jeff Molson embaucher Patrick Roy. Je sais pas si... J'ai comme l'impression
qu'en termes de... Ça va d'étiquette, par contre.
Ben, oui, ça va vendre d'étiquette. Mais genre, en termes d'ADN, de personnalité, je sais pas si je vois une association.
Non, mais tu sais, à un moment donné, t'es flat là, comme organisation, puis tu vas redonner un oomph, là.
Oui.
Patrick Roy derrière le banc, écoute. Je veux dire, on a la bave qui coule, là, tu sais, c'est comme, yes, ça va être bon, Patrick, là, c'était gagnant.
T'as trop suivi le soccer, toi.
Ben, Michael, c'est peut-être toi le mieux placé pour nous en parler, là, étant donné que il est à Québec et tout ça, mais écoute, il y a l'expérience de coaching national, il a gagné le trophée Jack Adams, soit dit en passant. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi, on aimerait ça. Les médias, juste les journalistes, là, t'sais, on aimerait ça. Ça serait du bonbon d'avoir Patrick, là, parce que ça nous donnerait des soirées excitantes, des points de presse en levant.
Absolument.
C'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Mais outre ça, là, cet aspect-là, c'est un gagnant. Puis c'est un gars qui, pour lui, quand même, le Canadien a une place importante dans sa carrière. Ça s'est pas terminé avec l'organisation comme il aurait souhaité.
Ouais.
Mais je sais qu'intérieurement, là, c'est sûr qu'il en rêve de ça. Là. Alors, je souhaite qu'on vive ça tous ensemble collectivement un jour. On verra quelle tournure ça prendra.
D'ailleurs, il fait rien pour calmer le jeu quand fois qu'il se fait questionner.
Il est toujours ouvert.
C'est flatteur.
Il fait bien.
C'est normal. Il n'y a pas 50 candidats, puis lui, il fait toujours partie de la liste des candidats. Comme Max dit, ça risque de durer juste 2 ans. Bon, ouais, du fun en tabarouette. Je te le dis tout de suite, Pat, là, regarde, t'es juste là pendant 2 ans. Demande-moi même pas une prolongation de contrat. C'est sûr, t'es parti.
En autant qu'il ne part pas avant le camp d'entraînement.
Oui.
Ce qu'il avait fait avec l'Avalanche Colorado.
Ouais, ben c'est vrai. Bon, les gars, ben c'est tout. Écoutez, encore une fois, une émission bien, bien, bien remplie avec plusieurs très bons sujets et d'excellents débatteurs, bien sûr. Michael Lalancette, Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, merci beaucoup d'avoir été là. Je souhaite un bon week-end. On se retrouve sans faute lundi prochain. Merci à Maxime P. Paquet à la mise en onde. Et mon nom, c'est Jérémy Filosa. À bientôt, tout le monde. Bye-bye.